Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter la fois.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi soir, le 8 mai 2017.
Alors à l'international, on va vous parler de l'Argentine où des membres de la junte militaire sont en passe d'être libérés, puis après d'une autre tragédie en Méditerranée avec la disparition de 80 migrants, puis une répression terrible des indigènes au Brésil, et nous finirons pour cette rubrique avec l'Arabie Saoudite promue comme égérie de la promotion du droit des femmes. Au national, nous reviendrons sur la résurrection de Jésus-Christ et son élection sous le nom de Emmanuel, hein, qui veut dire don de Dieu en hébreu, à la présidence de la République française. Puis nous en reparlerons avant de nous appesantir sur le sujet. Et nous ferons un rapide et nécessaire retour sur la mobilisation nationale qui commence à se déployer face à cet ultra-libéral, et puis nous irons encore vous parler d'une tragédie à Antony avec le meurtre par la police du jeune Curtis. Au point de vue local, eh ben, on fera un retour sur la manif courageuse et déterminée qu'il y a eu hier, et également des camarades de Fezin qui sont grévistes à 95% dans la raffinerie. Puis nous finirons par un excellentissime dossier qui essaya de rétablir vérité et justice sur le 8 mai 1945, qui, bien loin d'être la capitulation allemande, est en fait la honte française de ces massacres et de ces horreurs en Algérie.
Et traditionnel agenda pour terminer.
Tout à fait. Près de 35 ans après le retour de la démocratie en Argentine, les crimes commis par la dictature militaire de 1976 à 1983, qui a fait plus de 30 000 disparus selon les organisations de défense des droits de l'homme, sont à nouveau source de débat. Une vive polémique ne cesse d'enfler à Buenos Aires après un verdict rendu le 2 mai par la Cour suprême qui permet une réduction des peines de prison des anciens tortionnaires. Dans un pays donné en exemple dans le monde pour les procès et les condamnations des criminels du régime militaire, de nombreux juristes s'inquiètent de cette décision et les défenseurs des droits de l'homme se mobilisent. Ils ont appelé à une manifestation mercredi 10 mai à Buenos Aires. Le verdict concerne le cas de Luis Munia, arrêté en 2007 et condamné en 2011 à 13 ans de prison pour sa participation dans les enlèvements et les tortures de 5 travailleurs de l'hôpital Posadas dans la province de Buenos Aires au cours d'une opération menée le 28 mars 1976 par Reinaldo Biñón, dernier président de facto de la junte militaire. Aujourd'hui âgé de 89 ans et lui-même en prison. 3 des 5 membres du tribunal suprême ont jugé que monsieur Munia, en liberté conditionnelle depuis avril 2016, pouvait en effet bénéficier d'une loi baptisée 2x1 qui compte double les jours passés en détention préventive. Cette loi, votée en 1994, avait pour but de désengorger les prisons, les prévenus pouvant passer de très longues années enfermés avant la tenue de leur procès. Mais elle a été abrogée en 2001 car elle n'a pas permis d'accélérer les processus judiciaires. Donc, les 3 juges de la Cour suprême se sont fondés sur le principe de l'application de la peine la plus favorable aux prévenus, alors même que les délits de M. Munia que M. Munia a été accusé ont été commis avant le vote de ces lois et qu'il a été arrêté après son abrogation. Les défenseurs des droits de l'homme craignent que par ce cas, tous les tortionnaires ne soient remis en liberté, et M. Munia aussi.
Sans transition, on passe donc au naufrage de migrants, au triste nouveau naufrage de migrants en mer Méditerranée. Aujourd'hui, le HCR, donc le Haut Commissariat des Réfugiés de l'ONU et l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrants, ont rapporté que 11 migrants au moins étaient morts en mer Méditerranée et 200 autres portaient disparus à la suite de deux naufrages au large de la Libye. Le premier naufrage est celui d'un canot pneumatique parti vendredi matin de la Libye avec 132 personnes à bord. Au bout de quelques heures, le canot s'est dégonflé. 50 survivants ont été secourus par un porte-conteneur danois, mais de nombreux corps, notamment de femmes, d'enfants et d'hommes, ont été découverts lundi sur une plage à 50 km à l'ouest de Tripoli. Samedi et vendredi, c'est plus de 6000 migrants qui ont été secourus dans les eaux internationales au large de la Libye. Alors, on pourrait quand même rappeler que cette année est bien partie pour être tristement célèbre de par ses records de morts, du nombre de morts en mer Méditerranée. 2016 était déjà tristement célèbre pour cette même raison. Rappelons que c'est bien l'Europe forteresse et la fermeture des frontières qui créent en partie les morts et les polices qui contrôlent ces frontières, que l'impérialisme français, les guerres menées dans les pays que ces gens fuient pour des raisons donc qui sont liées à la pauvreté, pour des raisons économiques, pour des raisons qui sont liées spécifiquement à ces fameuses guerres, et bien tant qu'il y aura ces guerres-là, tant qu'il y aura ces exploitations et cet impérialisme occidental dans ces pays-là, et bien il y aura effectivement des gens qui émigrent et qui mourront aux frontières de l'Europe forteresse.
Et sans transition toujours, apparemment on n'est pas doué pour les transitions ce soir. On va au Brésil où le responsable des questions indiennes, Antonio Fernandes Toninho Costa, a dû démissionner après de nouvelles tensions entre des peuples autochtones et le lobby de l'agro-business. Alors il a en réalité été débarqué pour s'être opposé un peu trop fermement au lobby extrêmement puissant de l'agro-business qui a des pions à peu près partout dans le pouvoir brésilien à tous les échelons. Alors, le Brésil, c'est un immense pays agricole avec des cultures extensives très gourmandes en ressources naturelles et qui abusent d'engrais chimiques et de pesticides. Pour implanter ces exploitations, l'agrobusiness décime des populations indigènes entièrement et récupère les terres. Donc, tous les moyens sont bons pour faire toujours plus de profits au détriment des populations comme de la biodiversité. Et chaque année, des dizaines de personnes issues des communautés indigènes sont tuées dans le cadre de conflits qui les opposent en fait aux agriculteurs et aux éleveurs. Alors ces deux dernières semaines, plusieurs incidents ont rappelé cette sordide guerre que mènent les capitalistes contre les populations indigènes. Donc d'abord, le 25 avril, 3000 indigènes ont marché dans les rues de Brasilia en mémoire de leurs frères victimes de ces génocides. Ils souhaitaient déposer des cercueils devant le Congrès. Ils ont été violemment réprimés par les forces de l'ordre. Donc la marche a été accueillie par des lacrymos et des tirs de LBD. 5 jours plus tard, le 30 avril, 200 hommes qui sont liés donc à de grands propriétaires terriens ont attaqué la tribu des Gamela dans l'état de Maranhão. C'est au nord-est du Brésil. Et ont fait 13 blessés. Donc ils ont attaqué à coups de machette et de fusil. La tribu occupait en fait ces terres depuis 2015. Ils en avaient été chassés dans les années 70 par justement cette expansion agricole. Et y étaient retournés depuis 2015 de manière illégale. Donc parmi les 13 blessés, l'un d'eux a eu les mains coupées. Il a également été atteint par des tirs dans le dos. 5 victimes sont toujours dans un état grave. Alors, les tensions, elles sont extrêmement vives également dans d'autres régions, hein, alors même que la loi brésilienne prévoit une protection pour les peuples indigènes depuis 88. C'est la loi de démarcation. Alors, selon ce texte, les terres indigènes sont inaliénables et indisponibles, et donc sans possibilité aucune de négociation ou de prise en compte des intérêts économiques, qu'ils soient d'entreprises minières ou d'exploitation de bois, d'orpailleurs, de gros propriétaires, blablabla, ou politiques. Donc, malgré ce paravent législatif, les exactions des capitalistes continuent. Elles tuent encore partout au Brésil. Dans le Mato Grosso, en 2015, donc le Mato Grosso, c'est à l'ouest du Brésil, 36 Indiens ont été tués. Et le bilan global depuis 2013 est de 891 morts. Donc, une fois de plus, c'est les intérêts des grands propriétaires terriens qui sèment la mort. En plus de détruire la biodiversité, la culture indigène, ils mènent une véritable guerre contre les populations indigènes. Et il semble que les restes de la colonisation ont encore de beaux jours devant eux, tant que les intérêts des capitalistes ont à voir avec elles.
Voilà, et malheureusement, ces intérêts capitalistes, ils sont défendus par la plupart de nos États, qui se réunissent dans une super méga structure qui s'appelle l'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies, où parmi le dédale des bureaux, des chambres et des commissions, eh bien, il existe une petite officine dédiée aux droits des femmes et qui est située juste à côté du droit de la guerre et celle du droit des morts de faim. Donc cette commission des droits des femmes, c'est une sous-commission du Conseil économique et social des Nations Unies qui a été créée en 1946. Donc elle est censée jouer un rôle important dans la promotion des droits des femmes et contribuer à l'établissement des normes mondiales relatives à l'égalité des sexes et à, dixit, l'autonomisation des femmes. Donc pour établir ces normes, qui doivent conduire à l'harmonisation mondiale du droit en ce domaine, les 45 membres de la commission, créée en 1946, mais qui a dû attendre quand même 1987 pour ouvrir son premier groupe de travail, hein, comme s'il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc cette commission onuesque, constatant que les droits des femmes n'avançaient pas proportionnellement au PIB des États, a décidé de s'adjoindre un nouveau membre dans cette lutte contre l'oppression masculine, le patriarcat. Accrochez-vous bien, mes bien chères sœurs, c'est l'Arabie Saoudite, grande protectrice s'il en est de la condition féminine. Car oui, l'Arabie Saoudite est une terre d'égalité, de justice, en plus d'être accessoirement pétrolifère. Bien sûr,
le paradis sur terre.
C'est ça. Bien sûr, les mauvaises langues, hein, par exemple comme toi, argueront que dans ce pays, chaque femme saoudienne doit avoir un tuteur masculin qui prend toutes les décisions importantes en son nom, contrôlant eh bien, la vie des femmes depuis leur naissance jusqu'à leur mort. D'autres, comme mon cher collègue, contre le micro.
Oui, j'attends.
Voilà, d'autres opineront que, à l'intérieur même de la commission pour la promotion du droit des femmes, concernant l'Arabie Saoudite, eh bien, 13 hommes discutent avec les autres, sans aucune femme, parce que ces dernières ont été installées dans une salle séparée par les organisateurs. Donc les plus cyniques, hein, contempteurs de cette organisation de paix et d'amour, comme moi, qu'est l'ONU, à ne pas confondre, hein, avec la grande organisation de paix de l'ANU, eh bien les plus cyniques argueront donc que confier la promotion des droits des femmes à l'Arabie Saoudite, c'est confier les incendies aux pyromanes ou la protection des juifs à Hitler. Mais quoi ? Les premiers fruits ont porté, puisque le 5 mai, en gage de son exemplarité, l'Arabie des Saouds a autorisé les femmes à conduire sans autorisation de leur tuteur. Waouh !
Trop cool.
Donc nous ne comprenons pas cependant l'étonnement que cette élection suscite. Hein. On rigole bien sûr devant le balai diplomatique des délégués quand on les interroge sur leur vote. Qui a voté pour ? Qui sont les rares qui ont voté contre ? Qui sait qui se fout de la gueule du monde ? Mais bon, la schizophrénie est-elle moins flagrante quand c'est les USA, la Russie, la France ou la Grande-Bretagne qui doivent promouvoir la paix ? Tous les droits, toutes les revendications, les capitalistes empareront les États, leurs outils, et d'autant plus cette façade qu'ils appellent l'ONU. Et c'est l'Arabie Saoudite qui discutera des normes concernant le droit des femmes à l'ONU. Bien sûr, ces droits, seules les femmes pourront les conquérir et nous en parler après.
Pour rappel, vous êtes bien sur Radio Cagno 102.2. Nous, on va continuer à être le national, et puis pour démarrer, une petite chanson.
Quand il reviendra,
trouble.
Dimension christique, je ne la renie pas, je ne la revendique pas. Je ne cherche pas à être un prédicateur christique. Mais pourtant. Et oui, Jésus Macron est arrivé en tête des scrutins hier soir avec le score de 66,6% des voix. Et pourtant, tout entouré d'un halo lumineux, le sauveur du capitalisme est arrivé. Tous les traîtres sont au portillon pour pouvoir profiter de sa lumière auréolée de billets et pouvoir s'en gaver pendant 5 ans. Le petit arriviste, sans compassion ni charité chrétienne, est arrivé à son statut de président de la République française en écrasant les salariés qui défendent leurs droits à une vie décente. Les saintes banques sont arrivées au pouvoir. Alléluia, les bourgeois sont sains et saufs et seront protégés. Pas d'inquiétude. Ah, Emmanuel, don de Dieu en hébreu, était prédestiné à nous salir encore et encore après cette loi travail scélérate. Entre autres, Dieu est avec les bourgeois apparemment, vous en doutiez ? Si Dieu nous en a fait don, alors pouvons-nous ne pas y croire ? Mais sachez que pour nous, ça sera sans Dieu ni patron.
Bien dit. Eh bien, sans transition, nous passons à la suite.
Ah oui, et c'est ici.
C'est toujours Emmanuel Macron.
C'est hier soir, dans la demeure des rois de France, devant une pyramide, symbole des premiers empires, que s'est achevée une campagne électorale palpitante, au terme d'un suspense insoutenable.
Oh, mais quand il n'y avait plus Fillon, c'était moins drôle.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
La France vient d'élire Emmanuel Macron à la tête des armées et de l'appareil d'État.
Ouais.
Choix difficile pour les Français et Françaises que ce deuxième tour opposant deux fascismes l'un à l'autre. Le premier, old school, est bien l'un à l'autre.
UNT.
L'un à l'autre.
Mais tout à fait.
Le premier, old school, est bien folklorique avec ses saluts nazis servant de faire valoir à un autre plus moderne, lui, relooké et maniant une nouvelle langue comme il se doit. Quand les institutions et le capitalisme en crise, l'on appelle un nouveau parti moderne au service de la bourgeoisie. Mais le véritable vainqueur de cette élection présidentielle,
c'est
la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Non, je blague. Le grand vainqueur, c'est le capitalisme intégré. C'est Macron et son monde. Le monde de la finance, du CAC 40 et de la rente, des vendeurs d'armes et de ses dividendes versés grâce aux guerres impérialistes. Le monde du terrorisme atlantiste et eurobancaire, de la guerre menée partout contre la démocratie et les peuples. Un monde où le racisme et la xénophobie sont autant de stratégies de pouvoir, où la police viole, mutile, assassine chaque jour et où la justice d'État l'acquitte. Un monde qui laisse pourtant aujourd'hui encore davantage entrevoir son vrai visage et les ficelles de sa reproduction. C'est clair désormais, car jamais auparavant la médiacratie, le service public en tête, n'avait, avec ce degré d'ostentation, œuvré main dans la main à l'élection de leur super poulain. Parti perdant, certes, en raison de sa gueule à qui personne ne revient, en raison de son passif en matière de casse sociale, mais c'est à ça que sert la publicité. Et l'on doit reconnaître que le placement de produits a parfaitement fonctionné.
Super poulain !
En partie car le candidat de l'extrême centre est d'ores et déjà le monarque le plus impopulaire de la Ve République, là où Hollande en 2012, fort de son discours du Bourget et chassant Sarkozy, apparaissait pour les plus naïfs comme une providence. En partie car bien qu'ayant dû avoir recours au Front Républicain au second tour, au chantage au vote utile au premier contre une extrême droite consentante pour remporter l'élection, l'arnaque était visible de toutes et tous. Comme à chaque élection, on s'est fait violer, mais cette fois tout le monde l'avait vu venir de très loin. La colère monte et va encore monter. 2017 a bien eu lieu, mais l'état de grâce, lui, n'aura pas lieu. C'est à la fois dans la rue, sur les lieux de travail, à l'école, dans les quartiers, que l'on doit maintenant s'organiser et se battre en vue de la destitution forcée, de l'expropriation des banques et des appareils de production, de l'avènement d'une société sans classe, sans race, sans patriarcat, sans police et sans frontières.
Et sans État.
Sans frontières.
T'es devenu anarchiste, toi.
Il ne faudra néanmoins pas...
Le communisme, c'est l'abolition de l'État, excuse-moi.
Bon,
depuis qu'il est chaviste, c'est vraiment chaud, hein.
Ma conclusion, c'est pour vous. Il ne faudra néanmoins pas se tromper de lutte, car la lutte des gauches, des extrêmes gauches, des ultra-gauches ne mènera pas à grand-chose. C'est la lutte des classes qu'il faut ensemble et puissamment réenclencher.
Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis hier.
À l'échelle nationale, toujours.
C'est ça.
Tout à fait.
Enfin, ouais.
Donc, à l'échelle nationale, il y a...
Attention. Sans transition.
C'est aucune, vous transition. Êtes toujours sur 102.2 la belle des radios. Oh mon dieu.
On est toujours sur Radio Canyon.
Oui. Pour la troisième fois. Donc ouais, au niveau national. Donc en fait, bon, enfin, il faut quand même admettre que les manifestations étaient quand même assez faibles au niveau national. Même si elles ont eu lieu, les plus motivés étaient quand même présents un peu partout. Donc on parle à peu près de plusieurs centaines de personnes dans la plupart des grandes villes de France qui ont manifesté et qui se sont surtout fait, en fait, c'est plus, on peut pas vraiment parler de manifestation, on peut parler plutôt de répression sauvage de personnes qui essayaient, qui ont essayé de manifester plutôt, quand on voit en fait les résultats, notamment des médias qui nous donnent des infos de Paris.
Et quel défaitisme.
Ouais. Bah c'est là, c'est une sombre conclusion, mais je dis pas que le futur sera comme ça, mais à l'heure actuelle, enfin, vu les résultats du nombre d'arrestations et du nombre de blessés, je suis désolé, c'est là, c'est un peu compliqué d'aller plus loin.
Comparé au nombre de tags et de vitres cassées, non ?
Ça, par contre, oui, ça, il est vrai que ça a été très très efficace. Donc à Paris, en fait, les nouvelles qu'on a pu avoir des copains, donc c'est ça qui a énormément bougé. Il y a eu plein de manifestations, surtout dans le 20e arrondissement, où la mairie avait quand même demandé aux bailleurs sociaux la veille de pas sortir les poubelles pour éviter de servir de projectiles. C'est quand même assez magique. Plusieurs centaines de manifestants donc, qui ont baladé les flics pendant toute la soirée et qui sont fait nasser à droite à gauche, dispersés, blessés à de très nombreuses reprises. Des manifestations similaires ont eu lieu à Grenoble, à Marseille, à Toulouse, enfin un peu partout.
À Caen ?
À Caen,
à Caen, ouais.
Avec un slogan magique, paraît-il, non ? Non.
Ah.
Non, non.
Avec un temps fabuleux, par contre.
Non, mais il y avait plus de 100 personnes et c'est beau. Hein, c'est bon signe pour les suites du mouvement.
Ouais.
Tout est dit.
Voilà, voilà.
À quand la suite du mouvement ?
Excellent.
Non, non, mais donc un certain nombre
de... Transition.
Sans transition. Sans transition. Non, mais par contre... enfin, sans transition, mais oui. Qu'y a-t-il sans transition ?
Non, non,
rien. Non, mais si.
Non, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de manifs qui ont réussi à se tenir alors que ces manifs étaient pour la plupart interdites ou en tout cas non déclarées, et que donc ça prouve qu'il est encore possible, malgré les interdictions, malgré l'état d'urgence, de braver ces mesures liberticides et de réussir à manifester. Donc on invite les gens à venir le plus possible à toute initiative de ce type.
Et de courir pour échapper aux baqueux aussi. Hein.
Oui, de mettre des baskets.
De mettre des baskets, mais ça s'est quand même pas trop mal passé dans certaines villes. Donc.
Et surtout dire aux gens qu'ils sont pas tout seuls. La lutte, on est déjà plusieurs milliers dans la rue, donc ils viennent. On est là aussi pour les recevoir et puis qu'ils viennent, voilà.
Mais dans la catégorie et les commis du président Macron, on a quand même eu un camarade parisien qui a reçu dans la même journée 3 interdictions de présence dans, en fait, en adoucinant à peu près les 3/4 de la région de l'Île-de-France. Mais quand même, trois brigades de flics sont passées dans la même journée, lui filer un papier avec à chaque fois des arrondissements et des quartiers différents. Ce qui
du
est
coup,
assez
est
magique. Du coup, mais non, en fait, du coup, il est venu à la, enfin, dans le
la
document.
Il est venu
à Caen. Voilà, tous les interdictions manifestées ont pu aller à Caen. Non, non, il a pu aller à la Villette
parce que c'était 200 personnes.
Il n'y avait aucun canet.
Non, mais par contre, en dehors de ces manifestations ondes de joie, il y a des événements un peu plus tragiques qui ont eu lieu en région parisienne. Transition.
Eh oui. À Antony.
Ah, excuse-moi,
Sans transition.
Écoutez, quand vous ne me prévenez pas les transitions.
On, mais on a fini, on le dira, mais on a fini tard hier
donc
soir
oui.
En manif, donc c'est normal, on est un peu fatigué.
On va faire une minute de silence.
Là, on va quand même calmer le jeu, parce que là, on va vous parler de choses dramatiques quand même. Il s'agit de Curtis, 17 ans, originaire de Massy, donc en Île-de-France, 92. Il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi d'un grave accident de quad. Donc dans sa ville à Antony, après avoir voulu échapper à un contrôle de police. Selon la police, le lycéen a percuté un bus en fuyant un contrôle policier pour non-port du casque. Et cette version, par contre, est contestée par les proches de Curtis et par les habitants de Massy. Selon eux, le jeune lycéen a été percuté par la voiture de police et non par le bus. La rumeur se propage rapidement, des échauffourées éclatent dans la nuit de vendredi à samedi, un cocktail Molotov est lancé en direction des policiers et du mobilier urbain est dégradé. Ça, c'est la version policière, bien entendu. Mais... Donc, version policière déjà contestée une fois, mais contestée une seconde fois, puisque une témoin présente dans le bus lors du drame, selon elle, Curtis a bien percuté le bus, mais suite à une course-poursuite avec la BAC qui poursuivait le quad de Curtis en voiture. Pourtant, une note du ministère de l'Intérieur interdit aux forces de l'ordre de poursuivre quad et moto depuis le drame de Villiers-le-Bel. Donc l'accident de Curtis fait malheureusement écho à un autre accident qui a eu lieu presque 5 ans jour pour jour auparavant. En mai 2012, Mohamed H, 24 ans, habitant d'Antony, s'était tué à moto.
Le passager de 19 ans et originaire de Massy est aujourd'hui tétraplégique. Une rumeur de course-poursuite avec les rumeurs s'était propagée et des échauffourées avaient aussi éclaté pendant plusieurs jours. Cette histoire fait aussi écho à la récente histoire de Mehdi à Vénissieux en décembre dernier, poursuivi aussi en scooter et qui s'est tué dans l'accident. On pense très fort à la triste phrase « Théo et Adama nous rappellent pourquoi Zied et Bouna couraient ». Mais pourquoi donc Curtis essayait-il d'échapper à ce simple contrôle policier ? Justice pour Curtis, justice pour les autres. À Antony, comme dans trop de quartiers, la police continue à tuer.
Ni oubli, ni pardon.
On continue et on passe à l'information locale. Et donc, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé hier à Lyon. Un rassemblement a été appelé à l'initiative d'un certain nombre d'organisations, mais ici, il nous convient plus de parler de l'appel de l'Assemblée de lutte qui a eu lieu la semaine dernière à la Bourse du Travail, hein, considérant que face à la violence du quinquennat qui s'annonce, eh bien, il fallait riposter dès maintenant, dès le premier soir, puisque qui que soit le ou la prochaine présidente de la République ou la prochaine majorité parlementaire, eh bien, on aura un état policier et la précarité, et que si on ne fait rien, eh bien, c'est bien ce qu'on aura, c'est bien ce qui s'appliquera. Et donc, hier, on s'est retrouvé place des Terreaux avec un énorme dispositif policier. Hein.
Oui, comme d'hab.
On est d'accord. Avec deux canons à eau, un certain nombre de personnes qui ont été empêchées de rentrer sur la place. Hein, donc, on était entre 200 et 300 sur la place, mais en fait, il y a des gens qui étaient bloqués à l'extérieur.
Ouais, moi, pour avoir été bloqué, on était bien plus que 200-300 à l'extérieur. Après, les gens partaient devant le blocage, mais il y avait énormément de...
rassemblement qui avait été déposé par le NEF.
Une interorga qui était composée même des MJS. Donc,
donc l'État ne se contente plus d'encadrer et il utilise ses services pour dissuader...
Et empêcher les gens de venir à un simple rassemblement.
Exactement, il y avait des grosses intimidations sur la légalité, policières. Quoi. C'était énorme, avec des gestes, des CRS qui nous montraient clairement que même si on était à 2m2, ils étaient prêts à nous viser avec leur flashball.
Oui, et puis ils ont fait de la provoque avec les canons à eau pour chauffer tout le monde.
Ils avaient quand même de l'équipement militaire. Enfin, on a pu repérer un certain nombre de fusils d'assaut à charger. Ça pose toujours une ambiance dans les manifestations pacifiques dans la plus grande démocratie du monde.
C'est ça. C'est...
Alors, ce rassemblement s'est fait donc nasser, hein, empêcher les gens d'y participer, et puis a surtout provoqué beaucoup de temps pour pouvoir en sortir. Hein. Il a fallu batailler pour pouvoir sortir de cette place alors qu'on voulait en sortir, mais on ne pouvait pas. Donc, ils ont bloqué pendant un bout de temps un certain nombre d'individus tout en les provoquant.
Puis ils ont chargé également avec le deuxième canon à eau les gens qui essayaient de sortir de la place et qui étaient empêchés par un contrôle d'identité au compte-gouttes.
Alors ensuite, un certain nombre de personnes se sont retrouvées à l'extérieur de cette nasse et ont décidé de lancer une manifestation qui a eu lieu dans les pentes.
Et dans les rues de la Croix-Rousse après.
Et qui s'est déroulée dans un
la joie et
calme,
la bonne humeur, avec rage
joie,
et courage.
Voilà, avec des slogans anticapitalistes, anti-macronistes, qui appelaient à la résistance, à organiser cette résistance, avec des tracts distribués, etc., des petits messages écrits sur les murs, enfin, ce genre de choses.
Et voilà. Tout ça s'est terminé aux abords de Saint-Jean, où les canons à eau étaient disposés entre les FAF et le reste du groupe qui avait continué la manif. Et il y a eu quelques interpelles.
Deux au niveau de Saint-Aunay,
ouais,
je crois.
Au moins deux au niveau de Saint-Aunay.
Sûrement plus, et sûrement de nombreux blessés à cause des fachos qui traînaient dans le coin et des camarades, on n'a pas vraiment de nouvelles. Continuer, parce qu'en fait la lutte continue, ça on parle d'hier, mais à Paris il y a eu un énorme rassemblement aujourd'hui, dont on a oublié de parler tout à l'heure au niveau national. Les infos qu'on peut avoir sur notamment Paris Lutte Info, le site des copains locaux, nous donnent plus de 5000 personnes qui ont manifesté et qui commencent à développer le deuxième round de la loi travail.
Ils appellent ça Front Social.
Le Front Social, en espérant que ça tienne. Bon, en continuant en tout cas, la loi travail et puis les conneries qui vont avec, on a encore les effets, donc on va faire une transition cette fois, qui va tenir la route, on va essayer. En tout cas, directement, les copains n'ont pas attendu l'arrivée de Macron, les copains de Faisin n'ont pas attendu l'arrivée de Macron pour pouvoir se mettre en grève, parce que de toute façon, Macron, Hollande ou Fillon, c'est toujours autant la merde pour eux. Et donc, alors, les infos qu'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, plus de 95% en fait, des personnels de raffinerie sont mis en grève. avec un arrêt, une mise à l'arrêt en fait des machines qui a démarré jeudi et donc qui devrait bientôt se finir. Pour rappel, en fait, de quoi on parle ? On parle en fait de Fezzin, là, qui est une très très grande raffinerie qui appartient au groupe Total. Total qui est, que pour les rares qui ne sont pas encore au courant, un des six plus gros groupes mondiaux au niveau en fait de l'énergie.
Avec ITER.
Avec ITER, qu'est-ce qu'il y a un foutre ITER là-dedans ?
Total ITER.
Oh putain!
Oh. Ah, bon. Retire cette blague.
Immédiatement.
On te laisse une chance, tu peux retirer cette blague.
Ok, bon. Blague vaseuse numéro 5.
C'est la grande dépression.
Non, c'est, on, ouais, clairement. On va pouvoir tous sombrer, en tout cas, on est bien parti.
Ils sont plus chauds que les lacrymos, là.
Ouais. Donc voilà, bon, pour rappeler aussi Fezzin, dont Total c'est un des plus grands groupes, avec 150 milliards quand même de chiffre d'affaires annuel. Et Fezzin, c'est quoi ? Parce que les copains, ils font grève, en fait, ils demandent pas des trucs monstrueux, ils demandent simplement 1 million d'euros de primes en plus, et notamment la pérennisation en fait du poste d'infirmière qui est sur place, qui est le passe en CDI. Parce que Fezzin, bah, c'est loin d'être le paradis sur Terre. Pour rappel, enfin, dès 66, deux ans après la construction, la moitié en fait, de la raffinerie a sauté, blessant plus de 90 personnes, et tuant aussi quasiment une vingtaine de personnes, et avec des dégâts sur plus de 25 km. En 2011 aussi, il y a eu un problème de vanne, on a eu le droit à un magnifique nuage de soufre qui a recouvert toute la région de lyonnaise, mais on a surtout en fait, et ça qui est un truc qui est beaucoup moins connu, en fait, des témoignages des copains qui travaillent sur place, et qui en fait nous expliquaient, quand on était allé voir pendant un moment de leur travail, qu'en fait, ils se battaient pas pour leur retraite, parce que eux, en fait, ils savent très bien qu'ils n'en auront pas, vu que en fait, la grande majorité part en pré-retraite à cause de leur cancer, et que de façon, au bout de 5 ans, en général, ils sont tous morts, parce que en fait, Fezzin, c'est juste un mouroir géant et des conditions de travail qui sont totalement inhumaines. Donc, en attendant, donc, on a un soutien sans condition, évidemment.
Courage, les gars.
Et un rassemblement, enfin, des négociations devraient avoir lieu, mais bon, enfin, on connaît les patrons, c'est peu probable que ça arrive. Et donc, un rassemblement est appelé demain à 10h devant la raffinerie.
Bravo.
Tout de suite, on passe au dossier.
Oui, on est toujours sur Radio Canu, mais vous en doutiez en même temps.
Et oui, c'est férié aujourd'hui.
Et oui, et du coup, on passe au dossier sur le 8 mai 45.
Ouais. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest.
Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. Et une sorte de passion commence à animer la ville. Il n'y aura jamais assez de drapeaux, ni assez de joie, ni assez de cloches, ni assez de ciel.
Et non, nous n'allons pas fêter la capitulation allemande,
oh.
Ni la belle victoire de la France, celle-là même qui a collaboré avec le régime nazi de Vichy jusqu'à Bordeaux. Et non, parce que pendant que les Français se réjouissent en Algérie, l'armée française commet un des pires massacres de son histoire coloniale. On a donc voulu vous redire ce soir un peu cette histoire oubliée que les manuels de l'éducation nationale et ses profs aux ordres éludent le plus souvent. On a voulu aussi rappeler que si la guerre était finie pour les uns, elle devait prendre une autre forme pour les autres et que nous, on est plutôt du côté de cela. Alors on va revenir un peu plus sans détail plus tard sur le déroulé de ce 8 mai 45 en Algérie pour dresser un tableau rapide. En fait, à l'annonce de la capitulation allemande, des milliers d'Algériens sortent dans la rue pour rappeler leur désir d'indépendance et avec l'espoir que la fin de cette guerre leur ouvre de nouvelles perspectives de libération. Et c'est dans l'Est algérien, et particulièrement dans les villes de Sétif, Guelma et Kerata, que ces manifestations spontanées seront le plus durement réprimées. Donc les chiffres sont très disparates, hein, mais on situe vraisemblablement autour de 40 000 morts pour ces quelques jours de mai 45, où les Algériens ont cru pouvoir partager la victoire. On va écouter tout de suite Kateb Yassine nous parler du contexte dans lequel interviennent ces massacres et donc Tu vas nous parler de Katabi
Yassine. Katabi Yassine, oui, introduire un peu ce bonhomme, puisque c'est quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de bien en tout cas. C'est un romancier, dramaturge, visionnaire algérien, et avant tout un poète rebelle. Il est né à Constantine, en Algérie, en 1929. Et en 1945, et notamment en mai 1945, il a 15 ans, et il participe au soulèvement populaire du Constantinois pour l'indépendance. Il est arrêté à Sétif et incarcéré durant 3 mois à la suite de la répression. Et cette date du 8 mai 45 marquera à tout jamais l'existence, l'engagement et l'écriture de Katabi Yassine, qui poursuivra notamment en France son engagement politique contre la colonisation, le néocolonialisme et la dictature post-indépendance, qui n'a cessé de spolier le peuple algérien, donc jusqu'à 1989, date à laquelle il décède à Grenoble. Donc on écoute Katabi Yassine sur le contexte algérien en 1945.
La guerre, c'est le rationnement. Tout était rationné, tout était au marché noir. Il y avait la famine. Et je ne sais pas si on imagine vraiment ce que ça veut dire, la famine. Moi, j'ai vu de mes propres yeux un homme mort de faim à Sétif dans la rue. Et il était à moitié nu, parce qu'on ne trouvait même pas de quoi s'habiller non plus. On ne trouvait strictement rien. C'était la misère la plus noire. Il y avait d'ailleurs, la misère amène d'autres choses, des épidémies par exemple. Il y avait une épidémie de typhus terrible au village où j'étais, près de Sétif. Enfin, les gens allaient au cimetière plusieurs fois par jour. On mourait par famille entière. Presque toutes les familles étaient décimées. Et vraiment, c'était une épidémie qui a fait beaucoup, énormément de victimes. La misère, bon, ces épidémies-là, et puis tout d'un coup, l'annonce d'une victoire qui devait se concrétiser par un changement pour nous. Une grande espérance, c'était de voir l'Algérie se libérer en même temps que la France et établir avec elle d'autres liens que les liens coloniaux.
Alors, on va, avant de revenir sur ces événements du 8 mai 1945, faire un bref retour historique sur ce qu'est l'Algérie. Et, car pour comprendre ce 8 mai 1945, pour comprendre cette dite guerre d'Algérie qui ne commence finalement pas en 1954, avec ces échanges de coups de feu et l'armée française, tout commence, la résistance armée du peuple algérien commence dès le début de la colonisation française, lors du débarquement des troupes royalistes du monarque absolu Charles X, le frangin de Louis XVI pour la petite histoire, en 1830. Cette première grande phase de résistance menée par un certain Abdelkader, unificateur des forces algériennes, ne s'achève qu'en 1847 avec la reddition de ce dernier, quand les dernières poches de résistance, notamment dans les montagnes kabyles, sont écrasées dans le sang. En 1848, l'Algérie est officiellement déclarée territoire français. Depuis lors, les insurrections, locales ou régionales, n'ont jamais cessé. De 1850 à 1870, par exemple, de nombreuses insurrections éclatent dans les Aurès et en Kabylie, réprimées dans le sang. La famine ravage l'Algérie entre 1866 et 1868.
Famine organisée par l'armée française.
En 1871, c'est le début de la révolte kabyle des frères Mokrani en mars, écrasée en mai. Près de 500 000 hectares sont confisqués aux Algériens et attribués aux colons. Alors, dans les années 1890, il y a un certain Jules Ferry qui fait adopter le code de l'indigénat et qui instaure un régime juridique spécifique pour les Algériens musulmans, et l'Algérie est entièrement intégrée à la France. La nationalité française est accordée aux descendants européens présents en Algérie, mais pas aux musulmans. En 1912, les musulmans sont astreints au service militaire. Entre 1914 et 1918, 25 000 Algériens musulmans meurent pour les beaux yeux de la France, pendant qu'en 1916, Constantine se révolte. Dans les années 20, dans les années 30, des mouvements indépendantistes se structurent, notamment menés par un certain Messali Hadj, et on reviendra sur ce bonhomme, tous interdits et dissous par les gouvernements français, y compris par un certain Front Populaire. C'est dans ce contexte que débute la Deuxième Guerre mondiale.
Et comme on l'a entendu dans l'extrait donc, de Katabi Yassine, le quotidien des Algériens au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est la famine, le chômage et la misère. Donc en plus de la guerre et de la sécheresse, les colons sont appropriés les meilleures terres. Donc les récoltes déjà maigres sont de toute façon pas redistribuées. Le contexte est extrêmement tendu. Il n'y a aucune place pour les velléités indépendantistes au regard de la situation internationale. Les migrations vers la métropole sont interdites, hein, on ne va quand même pas accueillir la misère qu'on sème. Et en Algérie, la pénurie est encore plus importante qu'en France, et la disette, elle touche plus particulièrement les populations musulmanes. Dès 1941, il y a des mutineries de soldats algériens qui sont également violemment réprimées. Dans la population, si en France la collaboration est plutôt bien assumée, en réalité la population algérienne, elle refusera bien souvent de livrer les juifs d'Algérie. Et environ 150 000 Algériens s'engageront aux côtés du général de Gaulle pour les campagnes d'Italie et d'Allemagne, c'est-à-dire pour sauver la France du péril fasciste. Alors comme ça a été le cas pendant la Première Guerre mondiale, c'est les populations colonisées qui vont servir de chair à canon pour les besoins de l'Empire, Empire qui poursuit pendant ces guerres-là son œuvre de pillage tranquillement. Et les premières victimes, donc, toujours seront les colonies. Alors au retour de la guerre, ce 8 mai 45, il s'agit en fait pour le général de Gaulle de montrer... dès le premier jour de paix, de montrer que les liens coloniaux ils changeront pas, que les soldats algériens rescapés se sont battus pour la liberté des autres et pas du tout pour la leur. Le jour est parfait pour rappeler à l'ordre celles et ceux qui auraient cru à un vent de liberté. Et
surtout, surtout que les Américains, qui sont les vrais vainqueurs, annonçaient à tout le monde le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il y avait ça aussi.
Et voilà, et du coup, Kateb Yassine nous parle un peu mieux de son expérience personnelle de cette sordide journée, puisqu'il était dans les rues de Sétif, adolescent, au moment de cette répression.
Kateb Yassine, le 8 mai 1945, vous êtes à Sétif.
Oui, ce sont des événements qui ont eu lieu à Sétif et à Guelma, c'est-à-dire deux villes de l'Est algérien. Et ça a été un massacre, un véritable massacre, qui n'a pas manqué de laisser des traces. D'autant plus que pour moi, j'ai été touché dans ces deux villes. Ça s'est produit, bon, j'étais jeune, j'avais 15 ans, donc je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais enfin bon, grosso modo, c'était la fin de la guerre, la victoire sur les nazis. Donc, c'était un grand événement, c'était la fête. On a entendu sonner les cloches, et puis tout de suite la rumeur s'est répandue que le lendemain on serait libre. C'était bon, un jour de liberté. Et donc, le 8 mai au matin, il y avait une manifestation officielle prévue au centre de la ville, et il y avait une manifestation populaire. Donc, c'était un jour de grande espérance, dans un sens, pour les Algériens. C'était, à Sétif, c'était jour de marché, c'était un mardi, et il y avait une foule énorme. Bon, moi j'ai vu venir le cortège. Au début, il y avait les scouts, puis après, des étudiants, des militants. J'ai reconnu parmi eux des copains de classe. Bon, alors ils m'ont fait signe, et je me suis joint au cortège sans trop savoir ce que ça signifiait. Et puis, tout de suite, ça a été les coups de feu. Bon. Alors, les coups de feu, la panique, parce que cette foule énorme qui reflue, j'ai une petite fille qui a été écrasée devant moi, là, c'était vraiment terrible. Parce qu'il y a eu vraiment la panique, les gens voulaient se sauver, dans tous les sens. Et puis, bon, il fallait que je rentre chez moi, puisque j'habitais dans un village à 45 km de là. Bon, donc, je suis monté là, à l'avant du car, et j'ai vu, alors, à ce moment-là, des choses terribles, parce que le peuple venait de toutes parts. J'ai vu ça comme une fourmilière. La terre est devenue une véritable fourmilière. Vraiment, je me demandais d'où venaient tous ces gens. Comment j'avais pu ne pas les voir avant. Mais on avait l'impression qu'ils sortaient de la terre. C'est de toutes parts, de toutes parts. Ça grouillait de partout. Et puis, il y avait des rumeurs folles. Je ne sais pas, certains disaient que les Turcs avaient débarqué à Bougie. Je ne sais pas, moi. D'autres disaient que, ça y est, que toute l'Algérie s'était libérée. Enfin, on racontait un tas d'histoires. Et puis, il y avait une grande fièvre, naturellement.
Alors, on va revenir un petit peu en détail hein, après cet extrait de Kateb Yassine qui a vécu du haut de ses 15 ans, presque 16, cette journée à Sétif. Eh bien, ce qui s'est passé à Sétif, Guelma et Karata, mais aussi à Constantine et les jours qui suivent dans d'autres villages notamment. Hein, revenons-y et contextualisons un peu. En avril 1945, Messali Hadj, donc le chef hein, des indépendantistes en Algérie, est enlevé puis déporté, ce qui prépare l'incendie populaire. Exaspérés par ce coup de force contre leur leader, les indépendantistes du PPA, le Parti du Peuple Algérien notamment, font la libération de Messali Hadj, un objectif majeur, et décident de défiler à part le 1er mai déjà, hein, sans la CGT et les PC français et algériens, qui restent muets sur la question nationale. Et déjà, ce 1er mai, à Oran et à Alger, la police et des Européens tirent sur les cortèges indépendantistes, faisant plusieurs morts, des blessés, de très nombreuses administrations. Mais la mobilisation ne lâche pas, et donc ce 8 mai, le Nord constantinois s'apprête à célébrer la victoire des Alliés, tout en rappelant à la France les revendications indépendantistes, et ce, par des manifs pacifistes. Le mot d'ordre était très clair, pas de mot d'ordre armé, pas de mot d'ordre insurrectionnel. À Sétif, une foule d'au moins 10 000 personnes défile dès le matin, pacifiquement et non armée. Hein, il est bien dit aux paysans qui sont venus des alentours de déposer leurs armes. Et donc, ils scandent des slogans de type « Indépendance »,« Libérer mes alliages »,« L'Algérie est à nous » et osent sortir un drapeau du PPA, le Parti du Peuple Algérien, futur drapeau algérien. C'est là que tout s'embrase, même si on le verra après, il y a bien eu une préparation de ce massacre, hein, mais un policier tire sur ce porteur de drapeau, rapidement suivi par des coups de feu venus des Européens attablés sur une terrasse de café ou même de leur balcon. Et surgit alors cette fameuse préparation du massacre des Algériens. Une milice d'Européens est formée et armée. La police, l'armée, la gendarmerie sont déployées. La chasse à l'homme et la femme musulmane commencent et durent plusieurs jours à Sétif. À Guelma, la situation est similaire. Une manif pacifiste dans l'après-midi, un drapeau algérien qui est déployé, l'ordre est donné de tirer sur le porteur et des milices meurtrières dirigées par le sous-préfet commencent leurs tueries et leurs arrestations massives. Les civils européens et la police se livrent déjà dès 8 mai à des exécutions massives et à des représailles collectives. Et pour empêcher toute enquête, ils rouvrent des charnières et incinèrent les cadavres dans des fours à chaux. Et oui, car les cadavres, ça laisse des traces. À Kerata, c'est un peu différent. Proche de Sétif, petite ville, petit village, il n'y a pas de défilé de prévu dans ce petit village tranquille. Mais en fin de matinée, on y apprend les tueries de Sétif. Les Européens prennent peur et s'arment, tandis que des habitants de Kerata parcourent tous les villages alentours en appelant la population à se rassembler à Kerata. 10 000 personnes s'y retrouvent la nuit et manifestent, révoltées, déchaînées. Ici aussi, l'armée française et les Européens tuent et massacrent. Suite aux assassinats, dans ces trois villes notamment, des groupes d'Algériens ripostent en tuant des Européens. S'ensuit une répression extrêmement violente dans les rues et les quartiers de Sétif et Guelma, alors que la presse française parle abusivement de terrorisme algérien. Pendant une semaine, du 8 mai 45, pendant une semaine, l'armée française, renforcée par des avions et des chars, et sous les ordres directs du gouvernement français, composé de membres du PS et du PC notamment, se déchaîne sur les populations de la région et tue sans distinction. Cette extermination fera, en une semaine, 45 000 morts.
Et après ces épisodes sanglants, il y aura aussi d'autres journées de mobilisation où les exactions continueront pour maintenir l'ordre colonial. Alors De Gaulle, qui est particulièrement attaché à cette colonie, il va tout mettre en œuvre pour faire cesser la contestation. Donc à la répression sanglante s'ajoutera progressivement une politique d'effort social pour tenter de marginaliser les indépendantistes en offrant notamment des rénovations urbaines, des constructions d'hôpitaux et une aide humanitaire. Et donc c'est sous la présidence du gouverneur Yves Châtaignaud que seront entrepris ces différents travaux qui visent à pacifier les velléités indépendantistes des Algériens. On écoute tout de suite un extrait des actualités un an après le massacre de Sétif.
Dans Sétif, rendu au calme, au travail, à la paix française, dans Sétif, où se sont effacées les traces des regrettables incidents de l'an dernier, le gouverneur général Yves Châtaignaud est venu montrer que rien ne subsiste dans l'esprit français de ce qui fut l'erreur d'une journée. Sétif, depuis, a vu grandir l'œuvre française. C'est ce qu'a constaté le gouverneur en visitant l'école professionnelle où les jeunes musulmans s'appliquent à la connaissance des techniques modernes. C'est ce qu'il a constaté aussi en visitant l'hôpital de Sétif et en y décorant une infirmière musulmane, Mademoiselle Messaï, qui se distingua particulièrement lors du tremblement de terre au Hodna. Le gouverneur général a rendu hommage à l'esprit de fraternité. C'est de cet esprit.
Alors, on a coupé un peu sèchement, hein, mais pour rappel, l'ORTF dépend directement du général de Gaulle et est un outil de propagande de l'État français, on l'a bien vu sur ce court extrait, et ça permet donc à l'État français de faire passer ce que bon lui semble. Alors, De ces massacres, hein, ces massacres vont laisser dans la société algérienne une cicatrice jamais refermée et une haine profonde envers l'armée française.
Tu m'étonnes.
Justifié.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait le comprendre, hein, effectivement. Mais également des traces au sein de l'unité du mouvement nationaliste et indépendantiste. Certains considérant effectivement que le PPA, le Parti du Peuple Algérien, et ses dirigeants avaient joué les apprentis sorciers. C'est la fin de l'union du camp nationaliste en Algérie. Et entre 1946 et 1954, va se structurer une organisation paramilitaire à l'échelle nationale. Alors qu'en 1952, les forces de l'ordre tirent à nouveau sur la foule à Orléansville. Le FLN, le Front de Libération Nationale, organisation clandestine très structurée et armée, lance une insurrection armée donc sur plusieurs points du territoire en novembre 1954, déclenchant côté français une réaction dite de maintien de l'ordre, hein, permettant des exactions toutes plus terribles les unes que les autres, et côté algérien, 8 années de guérilla qui déboucheront sur l'indépendance en 1962.
Et qui verra naître aussi une génération de révolutionnaires algériens particulièrement intéressante. On va écouter justement une chanson du groupe Debza. Alors Debza, ça veut dire point. C'est une troupe de théâtre engagée qui a été créée en 79 par des étudiants d'Alger et qui dérive de l'association Action Culturelle des Travailleurs, elle-même créée par le grand Kateb Yassine. Donc la troupe Debza va créer de nombreuses pièces tracts qu'elle ira représenter un peu partout en Algérie, souvent sans rémunération et dans des endroits un peu reculés. Nombre des membres de la troupe vont connaître la prison. Et la chanson qu'on écoute s'intitule Bnik Sourek et c'est un peu l'hymne de la troupe d'Ebza.
لجنينا وطلق كلابك في السلطة وقف الأحباس كعلينا كفرت علينا المضرة وإحنا جعنا وضرينا وطلق كلابك في السلطة وقف الأحباس كعلينا كفرت علينا المضرة وإحنا جعنا وضرينا وطال رقدنا في الكربة وإحنا رقدنا وشبغينا سبب اشقنا وعرفنا رحنا تلاقينا وطال رقدنا في القربة واحنا رقدنا واش بغينا وعرفنا مسبب اشقنا وعرفنا رحنا تلاقينا عم الفلاح طالبة لقد ساعدنا ومشينا نخوض طريق بلا رجعة ونستطر من ايدينا من ايدينا من ايدينا من ايدينا
Alors du coup, c'était Bnik Sourek de la troupe d'Ebza, donc qui est une troupe algérienne, mais c'est une reprise d'un poème de l'égyptien Ahmed Fouad Namj, qu'il a écrit en prison en 73, et qui sera aussi un chant très populaire du mouvement étudiant égyptien, et dont on va lire les paroles.
Donc, traduite, hein, évidemment. Donc,
oui, tu peux chanter.
Élève, non. Élève tes palais, tu peux élever tes palais sur nos champs. Avec notre labeur et le travail de nos mains, tu peux installer des tripots près des usines et des prisons à la place des jardins. Tu peux lâcher tes chiens dans les rues et refermer sur nous tes prisons. Tu peux nous voler notre sommeil, nous avons dormi trop longtemps. Tu peux nous accabler de douleur, nous avons été au bout de la souffrance. À présent, nous savons qui cause nos blessures. Nous nous sommes reconnus et nous sommes réunis. Ouvriers, paysans, étudiants, notre heure a sonné et nous nous sommes engagés sur un chemin sans retour. La victoire est à la portée de nos mains, la victoire pointe à l'horizon de nos yeux.
Voilà, du coup pour conclure, sans transition, Donc voilà, 72 ans après les faits, l'État français reconnaît que timidement ces faits, hein, que ce soit pour les massacres du mois de mai 45 ou pour l'ensemble des crimes commis par la France lors de la guerre d'Algérie. Bon, aussi pour l'ensemble des crimes commis par la France lors des guerres impérialistes qu'elle mène partout dans le monde. Exactement. Bref, le sujet est encore brûlant. On l'a bien vu avec Macron qui a fait machine arrière après avoir qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Alors, on ne se fait aucune illusion. Hein. Il était en voyage en Algérie. Il entendait probablement se saisir de cette opportunité pour récolter quelques voix supplémentaires. Effectivement, au jeu de l'opportunisme politique, il est particulièrement efficace. Mais face à la levée de boucliers de la droite et de l'extrême droite, il a dû revenir sur ses paroles, je le cite. Donc, je dis aujourd'hui à chacun et chacune, dans vos conditions, dans vos histoires, dans vos traumatismes, parce que je veux être président, je vous ai compris et je vous aime, parce que la République, elle doit aimer chacun. Donc, alors Macron en gaulliste, ça fait toujours marrer, mais ça nous montre surtout qu'on n'est pas prêt de changer cette histoire-là de la France, que notre nouveau président, pas plus que les précédents, reconnaîtra les horreurs des guerres impérialistes. Que ces guerres-là ont de beaux jours devant elles, surtout avec un président qui est l'ami des patrons du CAC 40.
Et qui a promis qu'il intensifierait les frappes en Syrie.
Exactement. Mais, et puis qui placera ses amis dans nos anciennes colonies.
La défense des intérêts de ses amis dans
exactement.
Les anciennes colonies.
Voilà. On ne doute pas que Macron saura les gâter. Et que c'est
un bon descendant de De Gaulle, il n'y a pas de souci, vu ce qu'a fait De Gaulle en Algérie notamment et ailleurs. On se doute pas que Macron fera beaucoup mieux.
Je comprends pas que les gens ils se disent gaullistes, quoi.
Ouais, bah, surtout quand tu vois ça.
Ils ont comparé Macron à Napoléon, ils ont fait « Ah bah oui, tiens, il est jeune, c'est un nouveau... »
Ah oui, c'est vrai, ça a eu du ouais.
Enfin voilà, 8 mai 45, c'est d'abord et surtout cette histoire-là et l'histoire de l'impérialisme français.
On peut déplorer que c'est pas encore une histoire populaire et que c'est un drame qui est équivalent à celui de la Commune de Paris en termes de répression et de mort. Et que, bah voilà, c'est pas, il n'y a pas assez de publicité qui est faite.
Et qu'encore une fois, pour ce coup-là encore, on n'oublie pas et on pardonne pas.
Voilà, et on peut revendiquer très sincèrement que le 8 mai reste férié, mais c'est pour, mais pour une dernière, autre raison. Quoi.
C'est vrai que la semaine dernière, on a dit qu'on n'oubliait pas pour Mac Mahon, mais De Gaulle non plus, on voilà. N'oublie pas.
Et surtout, et que le 8 mai 45 soit férié pour célébrer les morts de cette île.
Tu sais, si à chaque fois qu'il y a des morts, on demande des jours fériés, on ne va plus jamais bosser.
Justement.
Voilà.
Précisément.
En tout cas, il y a urgence de reconnaître les crimes de la France en Algérie. Mm. Et le 8 mai 45 pourrait leur être dédié, ça serait super.
Et on passe à l'agenda ?
Eh bien oui, on va terminer avec le traditionnel agenda. Et un agenda assez chargé, surtout en fin de semaine. Alors en début de semaine, c'est-à-dire mercredi 10 mai, on va à 18h tous à l'Assemblée de lutte à la Bourse du Travail, 3e
étage.
Oui,
en
oui, plus, vous avez peut-être emmené un bip bip, mais ça veut dire que la salle est bien réservée. Et donc, voilà, de quoi il va s'agir ? Il va s'agir d'organiser la riposte contre ce prochain quinquennat qui va être horrible, qui va être sanglant, ça va... Sauf si on se bouge un peu le cul et qu'on arrive à contrecarrer les projets, et notamment...
les ordonnances d'Emmanuel.
Et notamment les projets impérialistes, comme on vient de parler, voilà. Ensuite, on continue avec un truc un peu plus léger, c'est Les Mutineries, c'est un festival des arts militants qui va se dérouler dans 3 MJC, la Maison des Rancis, la MJC Vullion et la MJC Jean Massé, entre le 10 et le 13 mai. Donc il y a des performances, des projections, du théâtre, de la musique. Et gros morceau, le 13 mai, alors là le 13 mai il y a concurrence, il y a une énorme concurrence, il va falloir choisir. Mais il y a à la Griffe à 15h30 une rencontre débat autour du livre de Cameroun aux origines de la France-Afrique avec Manuel Domergue, l'un des auteurs. À peu près au même moment, il y a une autre rencontre avec des auteurs de bouquins, donc en l'occurrence Morgane Merteuil et Mathieu Renaud, qui sont co-auteurs, mais il y en a d'autres de l'ouvrage Pour un féminisme de la totalité. Je n'ai pas lu, mais ça a l'air très très bien. Vu qu'il n'y a pas d'émission après, je vais vous lire un morceau de l'argumentaire. L'ouvrage oppose une approche en termes de totalité, envisageant le féminisme comme une théorie des déplacements, des décalages dans le temps et l'espace au sein du capitalisme contemporain. C'est pas du Macron, hein, c'est l'argumentaire du bouquin. Le féminisme de la totalité met au centre de l'analyse le concept de reproduction sociale, comme sont assurés au quotidien la perpétuation et l'entretien de la force de travail et de sa position au sein du système de reproduction. En parlant de reproduction sociale... Ouais, alors donc du coup je vais abréger. Et il y a encore une autre rencontre.
Ouais, alors juste pour info, ce bouquin, c'est un recueil de différents textes de différents auteurs, ouais, notamment de Silvia Federici, oui, oui, oui. De Félix. Enfin voilà, il y a des de qualité variable. Ah, ouais.
C'est la revue Période en fait.
Ouais, voilà, ouais, en fait, c'est des gens de Période.
Voilà. Mais a priori, ça a l'air quand même bien, moi, de ce que.
Oui, oui, non. Ouais. Mais...
Et puis, il y a.
Des précisions.
Alors, elle essaie de modérer l'intérêt de cette rencontre, puisqu'au même moment. le profit déchiffré. Rencontre sur l'économie avec Darmanja, qui donc a l'air d'être un économiste.
Tout à fait.
C'est à 17h. C'est donc Christophe Darmanja viendra nous présenter son dernier livre, Le Profit Déchiffré. Et ça se passe au 169 rue de la...
Grande rue de la Guillotière.
Grande rue de la Guillotière. Ouais.
Métro Garibaldi.
Je vois pas ce lieu.
Pour comprendre le capitalisme, pour le combattre, il faut le comprendre.
Ouais. D'après l'argumentaire, ça a l'air d'être un truc marxiste quand même. Hein.
Oui. Ce qui n'est pas grave, hein, faut le dire.
Ah non, c'est pas grave.
C'est même parfois très bien pour comprendre les rouages.